Bruno Parmentier.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation dans le cadre de So Good, qui est une première à Bordeaux, qui n'est pas une première en France, mais qui est une première à Bordeaux. Et là, nous allons parler de votre dernier ouvrage. Donc, vous êtes, pour vous présenter, vous avez dirigé pendant 10 ans le groupe École supérieure d'agriculture d'Angers. Vous êtes ingénieur et économiste.
Mais pas agronome. Hein.
Mais pas agronome. Mais justement. Et donc, fin zéro, en finir avec la fin du monde, publié aux éditions La Découverte, et votre troisième ouvrage. Le premier, c'était Nourrir l'humanité. Il a été publié en 2007, également aux éditions La Découverte. Et en 2011, au Seuil, vous publiez Manger tous et bien. Et en lisant votre ouvrage et en voyant ce que vous aviez fait, je me suis posé une question que je vous pose. Qu'est-ce qui a fait que la faim dans le monde devienne pour vous un tel sujet d'étude?
Alors d'abord, je m'intéresse à la fin de ma vie à l'agriculture, parce que moi, je n'étais pas du tout de ce secteur. Ouais. Je suis ingénieur des mines, économiste, et j'avais consacré l'essentiel de mon temps à être éditeur ou à former des journalistes. Ou... Voilà, vraiment d'autres.
D'autres activités.
Et puis, à un âge mûr, de 53 ans, je prends la direction de ce qui est numériquement la plus grande école d'agriculture de France. Alors, je dis, je sais diriger des intellectuels. J'avais dirigé des éditeurs, des journalistes, des profs. Mais je ne connaissais pas l'objet. Et donc, j'avais beaucoup édité les livres des autres. J'ai dit, je vais en profiter pour regarder avec un regard neuf ces problèmes-là. Et puis, je vais essayer d'écrire. Et puis, je me suis dit, je vais essayer d'écrire les deux livres de référence sur ce qu'on enseigne chez nous, l'agriculture et l'alimentation, ce que j'ai fait avant de partir en retraite. Alors, maintenant que je suis en retraite, je suis essentiellement administrateur d'ONG. Ouais. Alors, je m'occupe de choses différentes, de logements sociaux, je m'occupe de protection de l'enfance. Et, entre autres, je suis rentré comme administrateur d'une grosse ONG qui s'appelle Action contre la faim. Mmh. Du coup, je me suis dit, ça va bien, agriculture, alimentation. J'en avais déjà parlé un peu, évidemment, dans mes livres précédents. J'avais essayé de faire vraiment ce que j'avais fait avant, le tour de la question. De quoi s'agit-il ? Mmh. Sur un problème comme ça, c'est finalement quand même très complexe parce qu'il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Hein. La surpopulation, le réchauffement climatique, les problèmes agricoles, les problèmes de distribution, les problèmes de santé, etc. C'est le problème de commerce international. Et donc, je pars de cette constatation. Il y a rigoureusement autant de gens qui ont faim aujourd'hui qu'en l'an 2000, mais qu'en l'an 1950 et qu'en l'an...
Ce que
1900.
Vous dites, 850 millions.
Voilà, il y a une espèce de loi.
C'est incroyable.
Absurde, peut-être, qui fait que, quel que soit le nombre d'habitants sur la planète, il y a toujours 800 millions de gens qui ont faim. Alors, d'un côté, on peut se dire, ça va beaucoup, beaucoup mieux, puisque nous sommes 5 milliards de plus qu'en 1900.
Et on sera 10 milliards en...
Donc, sur les mêmes champs, on a réussi à nourrir 5 milliards de gens de plus. Mmh. Donc, ça, c'est une version positive. Puis, il y a une deuxième version positive, qui est qu'en l'an 1900, c'était la moitié des gens de la planète qui avaient faim. On était à 1,8 milliard, il y avait à peu près moitié-moitié. 850 millions qui avaient faim, 850 millions qui mangeaient. Ouais. Grosso modo, le nord, le sud, les colonisateurs, les colonisés, pour faire bref. Et aujourd'hui, c'est plus que 12%, puisqu'on est 7 milliards. Mais en même temps, alors on peut revenir de l'autre côté en disant, mais puisqu'on a réussi à nourrir 5 milliards de gens de plus, pourquoi il y a toujours...
Ce différentiel,
pourquoi on n'arrive pas à réduire définitivement ces 800 millions? Alors, c'est 800 millions à peu près. Hein. En 2009, on a même franchi le milliard pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité. C'est en 2009 qu'il y a eu le plus de gens qui ont faim de toute l'histoire de l'humanité. Il y a eu plus de gens qui avaient faim en 2009 que pendant les guerres mondiales, par exemple.
Alors que là, on est revenu à 800. On a amélioré les conditions de production. Même on produit plus parfois qu'on ne consomme. Donc là, c'est en cela que vous commencez à expliquer les phénomènes.
Alors, effectivement. Voilà. Ensuite, il faut regarder. Ce n'est pas parce qu'on est ému en disant que ce n'est quand même pas classe que les gens aient faim. Mm-hmm. Et quand je dis que ce n'est pas classe, il y a un gamin de moins de 5 ans qui meurt de faim toutes les 10 secondes. Voilà, on a commencé à parler il y a quoi, 2 minutes. Et c'est déjà 12 gamins qui sont morts de faim. Voilà. Enfin, c'est quand même pas, c'est pas normal de vivre dans un monde où il y a ça.
Non.
Et donc, ça n'empêche pas de réfléchir. Alors, réfléchir, il y a plein de plein d'éléments qui concourent à ça. Mais en même temps, par exemple, en l'an 2000, les gouvernements ont dit « c'est pas bien qu'il y ait des gens qui aient faim. On va inventer un truc pour l'an 2000, les objectifs du millénaire. » Et donc, parmi les objectifs du millénaire, ils disent « bon ben, 800 millions de gens qui ont faim, c'est pas bien, j'en veux plus que 400 dans 15 ans. » Et tous les gouvernements du monde se disent « je me fixe un objectif, seulement, entre guillemets, 400 millions de gens qui ont faim en 2015. » Alors, ils ne disent pas où ils les mettent. Hein.
Voilà. C'est justement
la réalité, c'est que c'est l'échec total. Ouais. On se réjouit. Là, la FAO qui compte les gens qui ont faim, ça fait partie des métiers curieux dans le monde. À la FAO, il y a des gens. Qu'est-ce qu'ils font comme métier? Je compte les gens qui ont faim. Ben, pourquoi pas? Bon, ils nous disent, c'est merveilleux, ça baisse en 2 ans. On est passé de 850 à 800 millions. Et moi, je dis, mais de qui on se fiche? Tous les chefs d'État du monde ont juré solennellement qu'il n'y aurait plus que 400 millions de gens qui ont faim en 2015. 2015, c'est dans un mois. Et on en est à dire, bravo, on est passé de 850 à 800. Mais je rêve, c'est l'échec total. Oui. On n'a pas fait ce qu'il fallait pour passer, ne serait-ce que, à 400 millions de gens qui ont faim. Donc ça, ce n'est pas normal du tout. Alors, c'est pour ça qu'il faut essayer de comprendre quels sont les éléments qui font qu'on n'y arrive pas. Mmh. Alors... et la première des découvertes, c'est qu'il n'y a aucune fatalité là-dedans. C'est-à-dire avant, on avait faim parce qu'on n'était pas bon en agriculture et on n'était pas bon en transport. Donc comme on n'était pas très bon en agriculture, les années où ça n'allait pas, on manquait réellement. Et comme on n'était pas très bon en transport, on n'arrivait pas à renflouer les zones qui récoltaient mal avec les autres. Mais maintenant, enfin, c'est pas possible du tout. Maintenant, je veux dire, des techniques agricoles, on les connaît, et les transports, on les connaît. Mmh. Et donc, par exemple, regardez, c'est pas normal qu'on ait faim à Haïti. On essaye de prendre le prétexte qu'il y a eu un tremblement de terre, etc., à Haïti. Mais de qui on se fiche? Le tremblement de terre et le tsunami qui a eu lieu 2 ans après au Japon étaient bien plus forts que celui d'Haïti.
Oui.
Personne n'a l'indécence de dire « est-ce qu'on a faim à Tokyo ?»
Non.
Donc, qu'on ait faim 2 mois après un tremblement de terre, c'est réglo.
Mais pas 2 ans après.
Mais si on a faim 2 ans après un tremblement de terre, c'est à cause de l'homme. C'est pas le tremblement de terre qui donne la faim, c'est l'incurie, l'indifférence et la cupidité des hommes.
C'est ce que vous écrivez, vous dites « pas d'État, assiette vide ».
Voilà, alors, écoutez, on le voit un
peu...
Moi,
j'aime bien l'anecdote que vous illustrez en disant, en nous racontant l'histoire de Johann August Setter. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Mais c'est très intéressant.
Alors, c'est la ruée vers l'or.
Oui,
la ruée vers l'or en Californie.
Ouais.
Alors, au démarrage, ça a été un roman, hein, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, on doit avoir un roman à succès, je ne me rappelle plus. Bon,
vous ne l'avez pas mis, là.
Peu importe. Donc, il y a un aventurier... qui avait été... La Californie, c'était très compliqué d'y aller, hein, parce qu'il y avait des... dans la ruée vers l'ouest, on arrivait à des montagnes. Et puis, il y a très peu de gens qui ont franchi les montagnes pour aller de l'autre côté et découvrir la Californie. Bon, lui, il avait découvert, il était très entreprenant, et il avait fait toute une agriculture extraordinaire. C'était un très gros éleveur, un très gros agriculteur, etc. Et on mangeait, voilà. Et alors, il y a la catastrophe...
Ça se passe, ça se passe dans les années... 1839.
Voilà, milieu du 19e siècle.
Oui.
Bon, et alors, pas de chance, on découvre de l'or dans une de ses propriétés. Et ça, il faut bien voir que ça, c'est une catastrophe à l'échelle mondiale. Découvrir de l'or ou découvrir dans un pétrole actuellement dans un pays du Sud, c'est la famine assurée. Plus on a d'or, plus on a de pétrole, plus on a faim. Et là, ben là c'est évident, ça n'a pas raté. Ça, c'est su qu'il y avait de l'or. Mais... quand on découvre une mine dans des endroits où il n'y a pas d'État, c'est dramatique. Parce que immédiatement, toute la cupidité de l'homme arrive. Immédiatement, coup d'État, milice, etc. etc. Je crois que c'est 300 000 personnes du monde entier qui ont accouru dans cette ruée vers l'or. Inutile de dire que M. Sutter, il a terminé, ruiné. Plus personne s'intéressait à l'agriculture. Et puis, bon, ben, au passage, on a tué tous les Indiens qui nous empêchaient d'y aller, etc. Mais maintenant, c'est exactement la même chose. C'est pas normal qu'on ait faim, par exemple, en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, d'un côté, c'est une espèce d'aberration de la nature. C'est l'endroit où il y a la plus grande concentration de mines dans le monde. Mais les agronomes nous disent, mais ce pays-là, c'est un pays de cocagne pour l'agriculture. C'est exactement comme le Brésil. La République démocratique du Congo pourrait nourrir 300 millions de personnes. Ben, dans ce pays, 75% des gens ont faim. Cherchez l'erreur. Ben, l'erreur, c'est qu'il y a tellement de richesses. Tous les riches du monde se disputent cette richesse. Et donc, ben, c'est un pays qui est en guerre depuis 40 ans. Voilà. Mais plus près de nous, pourquoi on est aussi pauvre et on a aussi faim en Algérie qu'en Tunisie ? L'Algérie, c'est en théorie un pays de cocagne. C'est bourré de pétrole. Ben oui, mais finalement, pour pouvoir profiter du pétrole, il faut commencer par avoir un gouvernement. Donc quand on est en Norvège, on s'enrichit avec le pétrole. Dans donc tous les autres pays du monde, on s'appauvrit et on a faim. Et donc finalement, on mangera en République démocratique du Congo, peut-être quand on aura fini de fermer la dernière mine. Mais vous savez, il y a plein d'autres exemples. À Cuba, on mange plutôt mieux qu'au Venezuela. Venezuela, pourtant, ils avaient de quoi payer. Tiens, plus près de chez nous, récemment, la Russie. La Russie vient de fermer ses frontières parce qu'on est fâché.
Oui.
D'accord. Mais on découvre, en voyant ça, que la Russie n'importe plus l'aliment. La Russie, c'est le plus grand pays du monde, hein, quand même. Il n'y a que 170 millions d'habitants sur une surface pareille. Et on découvre que les Russes ne sont pas fichus de produire les pommes pour les Russes. Ni les cochons pour les Russes, ni le lait pour les Russes. J'ai envie de dire, mais enfin, oui, chercher l'Europe, ben, ils ont du gaz. Ils ont du gaz, donc ils ne font pas d'agriculture. Voilà. Et donc finalement, cet embargo est
peut-être
bien.
Oui, mais là, il y a un État.
Ben oui, vous mais un État qui n'a pas voulu.
Pas d'État, assiette vide.
Un État qui a des matières premières.
Oui.
Et voilà, quand je dirigeais l'école d'agriculture et qu'on allait voir des universités agricoles à Moscou ou à l'intérieur du pays, ils étaient tous désespérés en disant « Poutine s'en fout complètement de l'agriculture. Poutine nous dit « Tant que j'ai du gaz, j'achèterai du blé. » Alors maintenant, finalement, ce qui le fait réfléchir, c'est qu'il ne veut plus acheter à l'extérieur. Et c'est peut-être une crise salutaire. Parce qu'attendez, l'humanité compte absolument sur la Sibérie pour se nourrir au XXIe siècle. C'est là que les nouveaux champs vont arriver. Et donc, que la Russie soit aussi mauvaise en agriculture, c'est une catastrophe. C'était bien pour l'exportation un peu à court terme de quelques paysans français, mais c'est une catastrophe au niveau mondial. Et finalement, ce sera peut-être pas mal s'il y a une réaction en Russie, parce que s'ils retrouvent les rayons vides, ils savent ce que c'est que les rayons vides en Russie, ils vont protester, ils vont peut-être faire pression sur Poutine en disant « Attends, il faut faire de l'agriculture ce coup-là. Hein » Bon. Et donc, c'est vrai que pas d'État, ou bien des matières premières égale on a faim. Voilà, c'est peut-être, voilà, c'est ce genre de paradoxe qu'il faut comprendre. Pour pouvoir manger dans un pays, il faut déjà de la stabilité. Mais de tout temps, regardez les empereurs de Chine, ils passaient leur temps à réguler le riz. Les pharaons d'Égypte, ils avaient compris qu'une année sur deux, c'est les vaches grasses, une année sur deux, c'est les vaches maigres. Donc tous ces scribes des pharaons, ben, ils géraient le blé, essentiellement, hein, pour pouvoir resservir le rap de blé des années des vaches grasses pour les années vaches maigres.
Alors ça veut dire qu'il faut
qu'il n'y a plus d'administration.
Il faut nationaliser l'agriculture.
Non. Il faut qu'il y ait suffisamment d'organisation.
Oui.
Bien, par exemple, j'ai découvert un nouvel indice intéressant. Qui veut dire le développement. Combien de notaires y a-t-il dans un pays ? Un pays où il n'y a pas de notaire, on a faim. On a faim parce qu'il n'y a pas de sécurité de la propriété de la terre. Si on ne sait pas si demain je pourrais continuer à cultiver, évidemment, je n'investis pas. Donc, excusez-moi de manier les paradoxes, mais pas de notaire, on a faim. Pas de notaire, pas d'État, pas d'organisation, pas de stabilité, pas de stockage des bonnes années pour les mauvaises années, pas d'organisation minimum pour manger. Parce que, par exemple, l'agriculture, c'est quand même un domaine complètement à part. Parce qu'il faut manger tous les jours, dans tous les pays du monde.
Ça, c'est sûr.
Mais quand on sème son blé ou son maïs, on ne sait pas quelle quantité on va récolter. Ça dépend du temps qu'il fait, des inondations, des sécheresses, des maladies, etc. Donc, la production agricole a toujours été en dents de scie, alors que la demande est constante. Donc s'il n'y a pas d'organisation au milieu, c'est dramatique. Mais même en France, on peut le voir. Regardez, une année sur deux, au mois de janvier, il gèle, on manque de poireaux. Bah, immédiatement, le prix du poireau triple. Et puis au mois d'août, Il suffit qu'il y ait un camion de pêche de trop qui franchit la frontière dans les Pyrénées, choum, les pêches se cassent la figure. Donc, quelque part, le prix de la nourriture, il dépend complètement de petites variations de production. Or, il y en a tout le temps. Donc, si on n'organise pas cette production, on est sûr que ceux qui ne sont pas riches vont mal manger. Alors, ceux qui sont riches, ils mangent toujours.
Les multinationales, vous en parlez beaucoup dans votre livre. Alors, vous dites qu'elles s'accommodent fort bien de la faim quand elles ne la provoquent pas.
Alors oui, beaucoup de gens m'attendaient en disant « Allez, tu vas te dénoncer les méchants, etc. Bon, » alors, mais c'est d'abord une conception du monde. Il y a cette idée, on va spécialiser chaque pays du monde dans une production. Alors qu'on spécialise le bordelais dans le bon vin, je trouve ça réglo. Bon, ça, ça réglo, va, ça. Ici, ça va.
Faut pas le changer,
mais,
ça.
Mais par exemple, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les gens ont dit « plus jamais de guerre ». Alors, ils ont fait l'ONU. Mais ils ont dit « oui, mais si les gens ont faim, de toute façon, ils feront la guerre ». Donc, ils ont créé la FAO, hein, en disant « il faut faire de l'agriculture et de l'alimentation ». Bon. Et au début, la FAO a commencé à faire des développements, un plan de développement agricole, etc. Puis on a dit « non, ils n'ont pas assuré ». Entre-temps, on avait organisé l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et l'OMC nous a fait une démonstration éblouissante sur les chaussettes, objectivement. Ils ont fait un appel d'offres mondial pour les chaussettes. Il y a deux villages de Chine qui ont gagné. Et quand on y réfléchit, c'est extraordinaire. Il n'y a plus une seule grand-mère qui reprise une seule chaussette dans le monde. Voilà. Et donc, effectivement, pour les chaussettes, la spécialisation, c'est génial. Mais ensuite, on a dit, on va faire ça pour les ordinateurs, on va faire ça pour tout. Bon. Mais on va faire ça aussi pour l'agriculture. Et donc, on a dit, par exemple, aux pays africains, non, mais vous n'êtes pas bon en agriculture. Non, laissez-nous faire. Il y a des gens qui savent faire. Non. Vous pouvez toujours faire des choses qui ne poussent pas chez nous. Alors, faites un peu de café, un peu de cacao, ça va. Hein. De l'arachide, ce sera bon. Mais pour le reste, si vous voulez manger, faites un porc. Donc, par exemple, on est au Sénégal. Donc, le Sénégal dit, bien d'accord, je fais un porc à Dakar. Effectivement, dans un premier temps, ça a l'air de marcher. Parce qu'il y a trop de blé en France. Donc, il y a des cargos de blé français subventionnés qui arrivent à Dakar. Puis, il y a trop de riz en Thaïlande. Donc, il y a des cargos de riz thaïlandais. Puis, il y a trop de maïs, etc. Mais ça marche, plus ou moins. Mais ça marche parce que les différences de productivité sont absolument gigantesques. Il y a, par exemple, le blé. Producteur de blé en Beauce, en France. Il a maintenant 200 ou 300 hectares. Il produit 8 tonnes de blé à l'hectare. 300 hectares, 8 tonnes de blé. Il travaille un an, il fait 2400 tonnes de blé. Alors l'OMC dit, on va ouvrir les frontières. Puis vous allez voir, le paysan burkinabé, il se paye avec un lance-pierre, il va nous inonder de son blé. Ben oui, mais on va inonder de son blé. Attendez, vous en avez vu? Débarque à Bordeaux, du blé burkinabé. Mais il a 3 hectares, lui, il n'en a pas 300. Et comme il n'a pas les technologies, eh ben, il fait 3 tonnes à l'hectare. Donc lui, il travaille un an, il fait 9 tonnes. L'autre, il travaille un an, il fait 2400 tonnes. Il a beau avoir une belle maison, une voiture. Évidemment, le blé en surplus, en plus subventionné de la Beauce, il arrive dans le port de Dakar, bien moins cher que les céréales du Sénégal. Et donc, chaque cargo de blé qui rentre dans le port de Dakar, c'est 500 paysans désespérés qui grandissent les bidonvilles. En fait, le commerce international et l'OMC, leur vrai métier, c'est de fabriquer du bidonville. Parce que quand on y réfléchit d'un côté, c'est sordide ce bidonville. Et pourquoi les gens vont vivre dans le bidonville? Parce qu'on mange, ils crevaient de faim à la campagne, et dans un premier temps, il y avait un peu de céréales qui arrivaient dans les bidonvilles. Le fait nouveau, depuis l'an 2000, c'est que la révolution agricole mondiale, qui a très bien marché dans les années 60, 70, 80, l'agriculture intensive à coup de pétrole, grosso modo, de tracteurs, d'engrais, d'irrigation, de produits phytosanitaires ou de pesticides, suivant de quel côté de la barrière on est, voilà, c'est la même chose. Bon. Elle a commencé par augmenter massivement la production agricole mondiale. Hein. Nous, on produit 3 fois plus en France, grosso modo. Dans les années 50, on était content quand on faisait 3 tonnes de blé à l'hectare. Maintenant, on n'est pas content quand on en fait 8. Dans les années 50, on était content quand une vache vous donnait 2500 litres. Maintenant, on l'envoie à l'abattoir si elle fait que 8000 litres. Mmh. Donc, ça permet d'augmenter de façon massive. Mais ça y est, elle arrive au bout de ce qu'elle peut faire. Et depuis l'an 2000, on n'arrive plus à accompagner la croissance de la demande mondiale de produits alimentaires. Et par exemple, s'il y a eu des émeutes de la faim en 2007, c'est que dans les 7 premières années du 21e siècle, il y a eu 6 années déficitaires en céréales et qu'une année excédentaire. Donc on a écoulé les stocks, puis en 2007, ça y est, le 21e siècle a vraiment démarré pour l'agriculture, on n'a pratiquement plus de stocks, et donc la moindre variation, le moindre incident climatique dans une zone céréalière, c'est des émeutes. Et par exemple, en 2010, ben de nouveau, il y a eu des incidents climatiques. Sécheresse, pas possible en Russie. Inondation au Pakistan. Sécheresse en Australie. On a de nouveau manqué de blé. Et de nouveau, le prix du blé a triplé. Eh bien, révolution arabe. Parce que, par exemple, l'Égypte, l'Égypte, il est totalement incapable de se nourrir. L'Égypte, c'est un désert traversé par une rivière. Ouais. Il n'y a que 4% des terres cultivables. On ne peut pas nourrir 82 millions de personnes sur 4% des terres cultivables. Donc l'Égypte, quoi qu'il arrive, c'est un très gros importateur de blé. Le prix du blé a triplé, Moubarak a sauté. Mais vous savez, rien de nouveau sous le soleil. Hein, c'est quoi qu'il n'y avait pas à Paris au 14 juillet 89? C'est du pain. Ouais. Donc on voit que finalement, les choses, suivant les cultures, restent les mêmes. Le Gaulois, quand il n'a plus de pain, il raccourcit son roi. L'arabe, quand il n'a plus de pain, il fait sauter son gouvernement. Mais on est de nouveau, maintenant, la paix du monde est de nouveau attachée au moindre incident climatique dans une zone céréalière.
Et les incidents climatiques, ils vont avoir de plus en plus. C'est ça, ça ne va pas s'arranger avec le réchauffement climatique.
Alors, le réchauffement climatique, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Ouais. Parce que d'un côté, on peut se dire, ben, s'il fait chaud, c'est très bien, toutes les mers du monde vont évaporer. Il y aura plein de nuages. Donc le nuage, c'est pas bon pour le tourisme, mais c'est assez bon pour l'agriculture. Le problème, c'est que c'est pas la petite pluie bretonne sur tout le monde. En fait, le réchauffement climatique, c'est l'exacerbation des phénomènes extrêmes. C'est pas de la petite pluie pour tout le monde. C'est par exemple comme en 2010, sécheresse terrible en Russie, inondation épouvantable au Pakistan. Mais tout ça, c'est lié. Quand pendant des mois, les nuages boycottent Poutine, il faut bien qu'il retombe. Donc, ils ont fait de petites réunions de nuages. Ils ont dit, cette année, on va se faire Pakistan. Donc, quand il y a une inondation quelque part, c'est bien qu'il y a eu une sécheresse ailleurs. Dans les deux cas, prévoir un petit délai pour manger. Donc, plus de sécheresse, plus d'inondations, plus de cyclones, plus de maladies d'insectes. Parce que regardez, moi, j'habite Angers, c'est pas bien loin d'ici. Cet hiver, pour la première fois de ma longue vie, les géraniums, l'hiver dernier, les géraniums n'ont pas gelé. Ouais. Bon, ok. Mais attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? S'il n'y a pas de gel, on ne remet pas à zéro la vermine. Donc si on a chaud, on va avoir toutes les maladies des pays chauds. Et vous savez, les moustiques pas terribles, ça y est, sont de Janis. Hein, donc ils seront bientôt à Bordeaux. Si on a chaud, on aura toutes les maladies des pays chauds. Donc ça va être beaucoup plus compliqué d'élever. Mais à la fois élever des végétaux et élever des animaux. Tiens, par exemple, parlons tomates. Cet été, t'es pourri. Mm-hmm. Chaud et pourri. Eh bien, attendez, il n'y a pas eu une seule tomate qui ne soit pas en serre, qui n'ait pas été arrosée comme une malade de pesticides. Mais il n'y a qu'à voir les jardiniers du dimanche. Ben, ils n'avaient pas de tomates dans leur jardin, sauf à pchiter de partout. Voilà, donc la réalité, c'est que quand il fait chaud et humide, mildiou, etc. Enfin, pourriture, etc. Donc, ça va être plus compliqué de se nourrir. Et il faut se dire que là, du point de vue simplement agricole, il faut encore augmenter de 70% la production agricole mondiale. 70% d'ici 50 ans. Oui. Alors, il faut augmenter parce qu'on va être plus nombreux.
10 milliards.
Alors, pas chez nous. Chez nous, on sera pareil. Mais en Afrique, la population va doubler. Donc, ne confondons pas le fait que chez nous, on gâche et chez eux, ils ont faim. Il faut au moins doubler chez eux, puisque la population va doubler. Mais il y a déjà 50% de la population qui ne mange pas sa faim en Afrique. Donc si on veut que tout le monde mange en 2050, ce n'est pas doubler, c'est tripler. Il faut faire en Afrique le même effort sur l'agriculture dans ce continent que ce qu'on a fait en Europe de l'Ouest depuis les années 60, tripler. En Asie, il faut doubler, etc. Alors ensuite, il y a de plus en plus de riches. Parce qu'il y a des pauvres, toujours à peu près autant de crèvent la faim, on a dit, 800 millions. Mais il y a de plus en plus de classes moyennes. Les classes moyennes du monde, qu'est-ce qu'elles font? Par exemple, il y a l'ouvrier chinois. L'ouvrier chinois, quand il en a assez d'être paysan, crève la faim. Il va à Shanghai pour produire tout, là. Le micro, le truc, la cravate, nos habits, nos, tout. Hein. Bon, ça a l'air de misère, mais il y a une différence considérable. Avant, qu'est-ce qu'il mangeait ? Du riz ou rien ? Maintenant, c'est du riz, et du poulet, du canard, du lapin, du cochon. Autrement dit, l'ouvrier chinois, il mange le riz que mangeait son père, plus tout ce qu'a mangé le poulet qu'il mange. Dès qu'on passe de végétarien à carnivore, on augmente considérablement sa ponction sur la planète. En particulier parce qu'on mange des animaux à sang chaud. Les animaux à sang chaud, c'est un désastre du point de vue rentabilité. Bêtement, au lieu de faire de la viande, ils se chauffent. Mais regardez, le poulet, qui est le meilleur animal en termes de rentabilité, c'est à peu près 4 kilos de végétaux pour 1 kilo de poulet. Pour le cochon, c'est 6 kilos de végétaux pour 1 kilo de poulet. Et pour le bœuf, c'est 11 kilos pour 1 kilo de poulet. Autrement dit, un végétarien, soit par conviction, soit obligé. Parce qu'il y a beaucoup plus de végétariens obligés que de végétariens par conviction. Hein. Il y a 3 milliards de gens qui ne mangent jamais de viande parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour s'en acheter. Ils mangent des végétaux, c'est bien des végétariens. Bon, ben ces gens-là, ils mangent à peu près 200 kilos de céréales par an. Et dès qu'on devient carnivore, on mange tout ça, plus tout ce qu'a mangé les aliments.
On continue à manger 200 kilos de...
Oh, pas très loin, parce qu'on gâche aussi. Ah. Et donc, ben, au lieu d'en manger 200, on en mange 800. Un végétarien qui devient carnivore ou lactivore, hein, du lait, des œufs, tout ça c'est pareil, il multiplie par 4 sa ponction sur la planète. Donc d'un côté, il y a 2,5 milliards de bouches de plus qui vont arriver, plus. Il faut augmenter. Et en plus, il y a quelques milliards de gens qui vont se mettre à manger de la viande. Mais on ne va pas refuser aux Africains la politique sociale du bon roi Henri IV. Henri IV, il n'y avait pas des élections, mais il était populaire parce qu'il avait dit la poule au pot le dimanche.
Absolument.
Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas dire la poule au pot en Afrique aussi le dimanche. Et donc, il faut espérer beaucoup que partout on en mange trop, beaucoup trop de viande, par exemple chez nous, on en mange moins pour alléger la ponction sur les ressources mondiales pour permettre aux Africains qui n'en mangent jamais de manger de temps en temps du poulet. Donc nous, actuellement, juste pour situer un Français, ça mange dans sa vie 7 bœufs, plus 33 cochons, plus 1300 poulets, 20 000 œufs, 32 000 litres de lait.
Quoi, par personne ?
Par personne, dans une vie. C'est quand même pas mal, hein ?
Je vais te dire.
Et donc, se dire, c'est deux fois plus, c'est 85 kilos de viande, 90 kilos de lait par tête de pipe. C'est deux fois plus que dans les années 50. Dans les années 50, on mangeait 45 kilos de viande. Trois fois plus que dans les années 20. Dans les années 20, on en mangeait 25. Bon, mais moi je dis, attendez, 5 bœufs, 25 cochons, 800 poulets, pour une vie d'homme, c'est pas mal, non ? On n'est pas obligé de manger 7 bœufs. Et donc, à nous de voir, à nous de faire dans la viande ce qu'on a fait dans le vin. Parce que vous savez, moi, quand j'étais jeune, les bonnets rouges, c'était pas en Bretagne, c'était à Carcassonne et à Narbonne. C'était le grand rouge qui tâche. Hein.
Oui, bien sûr.
Et à ce moment-là, il faut dire que grand-père, il mangeait moins de viande, mais sur le vin, ça allait, quoi. C'était 140 litres de lait, de vin par personne.
Ouais.
Bon, maintenant, c'est
aujourd'hui
plus que 40.
Ouais.
Mais finalement, Bordeaux, de toute façon, il faisait déjà du bon. Mais il y a quand même une chose extraordinaire dans ce pays, il y a même du bon vin à Carcassonne. Pour des gens de notre génération, c'est quand même extraordinaire. Mais les gens de Carcassonne, qu'est-ce qu'ils ont dit ? T'en veux moins ? Ce sera que du bon, que du cher.
Ouais.
Bon, eh ben, pour l'élevage, actuellement... Ben, c'est ça, le défi. L'élevage qui se casse la figure en Bretagne, c'est le poulet bas de gamme, fait à partir de soja brésilien et de maïs argentin.
Le bilan carbone et n'est donc, pas très bon. Hein.
Ben, évidemment. Mais que les Brésiliens disent, mais c'est à nous de faire du poulet surgelé pour l'Arabie Saoudite, c'est notre matière première. C'est assez simple de faire un élevage de poulet. Arrêtez. Mais pendant que ces élevages ferment, quand on va dans les Landes, tout va bien pour le poulet. À Loué, tout le monde se loue du poulet. Dans la Bresse, tout le monde... Bon.
Mm-hmm.
Donc, à la fin, on mangera moins de viande, mais meilleur. Moins de lait, mais meilleur. J'espère, à la fois pour notre santé et pour la santé de la planète, ceci pour pouvoir permettre à ceux qui ne mangent jamais de se manger un poulet le dimanche.
C'est pour ça que vous dites, les Africains doivent manger de la nourriture africaine, les Asiatiques de la nourriture asiatique, et les Européens de la nourriture européenne. Donc ça veut dire, c'est l'inverse de la mondialisation.
Ah oui, qu'est-ce que c'est que cette escroquerie intellectuelle qui consiste à dire, comme par exemple on a dit au moment de la décolonisation, on va nourrir les gens qui ont faim, nous, les Français. Mm-hmm. Bon, maintenant on le dit moins. Mais les Brésiliens le disent. C'est de temps en temps des journalistes brésiliens qui m'appellent en me disant « Mais pourquoi, vous qui parlez d'agriculture, pourquoi vous dites pas « Arrêtez la vieille Europe, on s'occupe de tout, les Brésiliens ?» Et je leur dis « Attendez, attendez, vous savez compter ? Vous êtes combien, les Brésiliens, au Brésil ? 220 millions. Je vais vous donner une bonne idée. Vous pourriez déjà nourrir les 220 millions de Brésiliens, c'est une bonne idée, ça, non ? Et mettons que vous ayez du rhum. Vous savez combien de personnes ont faim sur Terre ? 800 millions. » Attends, le Brésil, j'ai bien entendu, vous allez produire pour les 220 millions de Brésiliens, plus 800 millions. Déjà, ils pâlissent un peu. Puis ils disent, mais attendez, vous y croyez en plus à cette idée ? On va transporter des centaines de millions de tonnes de produits périssables sur des dizaines de milliers de kilomètres pour les amener au fin fond du Burkina Faso où il n'y a pas de route. Tout ça pour les vendre à des gens qui n'ont pas un radis pour nous les acheter. Mais attendez, c'est de l'escroquerie intellectuelle.
Oui.
Je veux dire, les Africains n'ont pas d'argent pour acheter de la nourriture brésilienne, il faut qu'ils se produisent. Les Africains doivent manger de la nourriture africaine. C'est pas parce qu'on fait du café qu'il faut pas faire de manioc. C'est très bien de faire du café. Mais attendez, ça nourrit pas son homme. Alors je dis pas qu'une bouteille de Bordeaux ne circule pas de temps en temps sur la planète, mais ça c'est pas de la bouffe. Ça, je veux dire, ce qu'on mange vraiment,
c'est du plaisir.
Il faut que ce soit produit à quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres de chez soi. Et donc, il faut aussi se rendre compte que les gens qui ont faim, qu'est-ce qu'ils font comme métier ? Paysans. Ça, c'est difficile à comprendre à Bordeaux et à Paris, parce que la dernière fois qu'on a eu faim à Bordeaux et à Paris, c'était pendant la guerre, c'était en ville qu'on avait faim, et en revanche, à la campagne, ça y allait encore avec les omelettes. Bon, et donc, dans notre imaginaire, la faim, c'est la ville. Et d'ailleurs, quand on voit des gens qui ont faim à la télé, c'est les émeutes dans les bidonvilles. Mais en fait, ça, c'est l'épiphénomène. 80% des gens qui ont faim, c'est les paysans. Qu'est-ce que vous faites comme métier, monsieur ? Je me fais à manger. Ah ben, si tu te fais à manger toute l'année, au moins tu manges. Ben non. C'est quand même inouï. À peu près la moitié des gens qui ont faim sur Terre, c'est les paysans qui en plus ont des terres, mais ils n'ont pas de crédit, ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas de semences sélectionnées, ils n'ont pas de tracteurs, ils n'ont pas d'engrais, ils n'ont pas de pesticides. Bien. Ensuite, il y a à peu près encore 20%, c'est les ouvriers agricoles. Ils n'ont plus leurs terres, ils travaillent chez les autres, sont payés avec un lance-pierre, ils ont faim. Encore 10%, c'est des chasseurs, cueilleurs, etc., à l'ancienne. Bon, ben ça, c'est fini, chasseurs, cueilleurs, pêcheurs. Donc, 80% des gens qui ont faim, leur métier, toute la journée, c'est de se faire à manger. Donc, on voit qu'il y a un énorme problème de l'agriculture mondiale. Comment ça se fait que les gens dont c'est le métier de se faire à manger n'arrivent pas au moins à nourrir leur famille ? Puis les 20% restants, de toute façon, c'est des anciens paysans qui ont eu le ras-le-bol, qui sont allés dans les bidonvilles. Donc, il faut reprendre complètement cette idée qu'on va faire circuler. Et alors, on fait circuler. Les multinationales sont très bonnes pour nourrir les classes moyennes des centres-villes. Donc, dans les capitales du monde, les cargos arrivent et les multinationales sont très bonnes pour nourrir les classes moyennes. Oui, mais ça, c'est au détriment des gens qui ont faim. Mais en même temps, on ne va pas leur reprocher. Et une boîte normale, une boîte capitaliste normale, elle est là pour vendre. Elle n'est pas là pour donner, en plus à 10 000 km avec des coûts de transport pas possibles, à des gens qui ont faim. Son métier, c'est de vendre. Et donc, justement, ceux qui ont faim, ils n'ont pas d'argent, donc ils ne risquent pas d'acheter.
Alors, la solution. Abordons les solutions, parce que vous parlez des solutions.
Alors, allons-y.
Dans votre livre, parce que maintenant, le constat, ça y est.
Alors, première chose, il faut arriver à augmenter la production.
Ouais.
Pas seul, pas chez nous. Chez nous, ça va. Chez nous, on mange déjà et on ne fait plus d'enfants. Donc, en Europe, ça va. Mais 70% à l'échelle mondiale, hein, triplé en Afrique, doublé en Asie. Bon, et là, alors là, c'est l'ancien directeur d'école d'agriculture qui vous parle, on a un vrai problème. C'est que ce qu'on sait faire en agriculture, c'est consommer énormément de produits non renouvelables de la planète pour se faire beaucoup à manger. Donc on sait produire beaucoup avec beaucoup. Produire beaucoup et pas toujours mieux avec beaucoup. Or, ben, ça y est, on arrive au bout des limites de la planète. Non seulement elle se réchauffe, mais les ressources aussi. Par exemple, l'engrais. L'engrais azoté, c'est du gaz. Au prix où M. Poutine va nous vendre le gaz, l'engrais, c'est hors de prix. Mais les autres engrais, comme les engrais phosphatés, c'est des mines. Alors, il se trouve que je suis ingénieur des mines, je peux vous dire, à la fin d'une mine, on ferme la mine. Bon, il y aura bientôt plus de mines de phosphate sur Terre. Donc, il n'y aura plus d'engrais, etc. C'était toujours plus. toujours plus de terre, toujours plus d'eau, toujours plus d'énergie, toujours plus de chimie, toujours plus de tracteurs. Ben maintenant, c'est moins. Moins de terre, moins d'eau, moins de chimie, moins d'énergie, plus de tracteurs. Tout d'un coup. Et donc, l'agriculture jusque-là, c'était trop simple, trop facile. C'est maintenant que ça devient difficile, parce que maintenant, il va falloir produire plus et mieux avec moins, ce qui est beaucoup plus intéressant, mais beaucoup plus difficile que produire plus et moins bien avec plus. Et donc, on dirait si on ne peut plus... Ben oui, mais j'essaye de dire les choses simplement. Et donc, ça veut dire, ben, si on ne peut plus utiliser le pétrole, le gaz, le tracteur, les insecticides, les herbicides, les etc.,
on pleure.
Ben, qu'est-ce qui reste ? La mère nature. Bon, et dans la mère nature, grosso modo, il y a deux idées. Il y a l'idée des Américains. Je te mets directement dans le gène la fonction, et les OGM sont arrivés.
Oui.
Et donc, les OGM vont sauver le monde. Je vais te trouver, tu vas voir. Bon. Alors, ben, on va voir. En attendant, les Européens, ça nous donne des boutons. On n'en veut pas. Bon, okay,
vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Mais bon, on peut parler des OGM, mais ce n'est pas absolument... En tous les cas, pour le moment, je veux dire...
Là, vous zappez la question.
Non, mais je vais vous dire. Alors, moi, je pense qu'il faut des OGM. Voilà, moi, je pense très fortement qu'il faut des OGM, parce que l'autre solution, on n'est pas sûr que ça marche. Mais on va surtout détailler l'autre solution. Mais les OGM, on est au début du commencement des prolégomènes. Hein. On a inventé deux OGM nuls. Un OGM insecticide et un OGM herbicide. Ils sont aussi nuls l'un que l'autre. Mais entre parenthèses, on ne peut pas juger des OGM quand on habite à Bordeaux, puisqu'il n'y en a pas. Avec ces deux OGM nuls, c'est un champ sur 10 sur la planète. C'est 8 fois la superficie de la France. Vous savez, il y a un moustachu qui se lève le matin pour les arracher en disant « Si j'arrache, ça va s'arrêter, va prévoir de se lever tôt. » C'est 18 millions d'agriculteurs. Il y a plus d'agriculteurs qui sèment ces OGM nuls sur la planète que d'agriculteurs dans l'Europe des 27. Donc le coup est parti.
Ouais.
Mais en 2050, il n'y aura pas deux OGM. Il y en aura 283. Et certains qui seront bons. Probablement. On saura faire des plantes qui poussent avec moins d'eau, des plantes qui poussent dans des terres salées, des plantes qui donnent plus de protéines, des plantes qui donnent plus de vitamines. Donc on ne sait jamais. Mais le match est joué pour au moins une génération. En Amérique, OGM 1, anti-OGM 0. Et en Europe, moustachu 1, Monsanto 0. Vous avez vu ? Non, moustachu est plus fort que Monsanto. Bon. Mais alors, qu'est-ce qui nous reste ? Donc nous, finalement, ben, on aimerait bien que tout continue comme avant, mais ce n'est pas possible. Donc il nous reste la mère nature. Alors la mère nature, ça va bien au-delà du conflit entre les bio et les productivistes.
Ouais.
Parce que pour le moment, on est nul en bio. Hein. Et c'est normal, personne ne cherchait. Enfin, il y avait quelques chemises à fleurs dans le Massif central, mais regardez l'INRA, par exemple, grand centre de recherche. 7000 chercheurs, ben, ils ont divisé soigneusement en deux. Ils ont dit, j'en mets 6950 sur l'agriculture chimique et 50 sur l'agriculture bio. C'est réglant. Bon, mais au bout de 40 ans, est-ce qu'on est meilleur en agriculture chimique ou meilleur en agriculture bio? Évidemment qu'on est meilleur en agriculture chimique. Il faut se rendre compte aussi de cet espoir. On est nul en bio parce qu'on n'a pas commencé à chercher. Donc, les découvertes de l'agriculture chimique, elles sont déjà faites. Les découvertes de l'agriculture
bio, elles sont
à faire.
Oui.
Et c'est pour ça que pour le moment, un agriculteur qui se convertit en bio, il fait 30 à 40% de moins. Mais attendez, notre défi en Europe,
c'est
de dire, on produit toujours 8 tonnes de blé, mais sans insecticides et sans engrais. Voilà. Et sans pétrole et sans tracteur. Et en Afrique, où il faut tripler, ben, ça tombe bien, pour le moment, en Afrique, la productivité est très mauvaise. L'Afrique est restée complètement dehors de la révolution agricole de la fin du XXe siècle. Et les forces de la nature sont très fortes. Donc l'idée de tripler la production agricole en Afrique avec des méthodes agroécologiques, elle est réelle. Mais l'agroécologie, c'est forcément l'avenir au XXIe siècle, puisqu'il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de chimie, etc. En plus, l'acceptabilité sociale est de plus en plus faible.
Mmh.
Alors, juste quatre petits principes pour expliquer.
Ouais.
Première chose, on va arrêter de labourer. Parce que si vous prenez l'avion en ce moment en France, de quelle couleur la France? Marron.
Mmh.
Une faute de goût incroyable.
Oui, ça, c'est
le
vrai.
Soleil qui arrive aujourd'hui sur nos champs, il ne fait rien. On utilise nos champs 6 mois par an dans ce pays. C'est quand même inouï. Mais attendez, il faut couvrir les champs 365 jours par an. Il faut, puisque l'engrais va coûter si cher, il faut fixer du carbone et de l'azote l'hiver pour fabriquer son propre engrais, pour embrayer sur les céréales au printemps. Et en plus, si vous voulez, les vers de terre, ça travaille beaucoup mieux que la charrue. Hein.
Oui.
Bon. Et puis les champignons, ça, c'est une chose aussi que j'ai découvert très récemment. Comment ça se fait qu'il pleut la nuit Et le lendemain, il y a des champignons là où il n'y en avait pas.
Oui, c'est vrai.
C'est magique quand on y réfléchit.
Oui.
Ben, on se doute bien qu'il y a des trucs en dessous. Mais ce qu'on appelle nos champignons, excusez, c'est le prod du champignon. Le champignon, ce n'est pas du tout ce qu'on voit, c'est ce qu'il y a dessous. Un champignon, ça peut faire 80 tonnes. Le champignon, en fait, c'est des réseaux qui font des dizaines de kilomètres de filaments à l'intérieur du sol qui échangent les matières. Alors, on arrive avec la charrue, place, place, place à la modernité. Ben, le champignon, il dit, ben, débrouille-toi. Donc, en fait, l'avenir de l'agriculture, c'est utiliser les vers de terre et les champignons. Ce n'est pas du tout retourner la terre. Deuxième idée, dans ces champs couverts 365 jours par an, on va mettre des mélanges de plantes. Par exemple, des plantes à racines superficielles et des plantes à racines profondes. Ou bien des plantes godiches comme les céréales, qui sont dans un air où il y a 78% d'azote, mais qui nous font un caprice en disant « Mais non, mais l'azote, je vais le prendre par les pieds. » Ben, c'est fou, ça. Heureusement, il y a d'autres plantes qui savent faire ça, les légumineuses. Elles attrapent l'azote, elles se nourrissent, elles en laissent pour les copains derrière. C'est comme ça que depuis le Moyen-Âge, on sait que si on fait 10 fois du blé dans le même champ, à la fin, il n'y a plus de blé. Il faut faire des rotations de culture.
Ouais.
Mais pourquoi pas les mettre ensemble? Et puis, par exemple, il y a l'effet push-pull. Excusez l'anglicisme. L'effet push.
Ouais.
Je mets dans un champ des plantes qui sentent mauvais, qui repoussent les insectes qui mangent les autres plantes. Et puis, dans la haie, je fais l'effet pull. Je mets des friandises à insectes. Venez par là. Ben, plus besoin d'insecticides. Etc, etc. Ouais. Notre seule limite, c'est notre propre médiocrité. À imaginer d'autres manières de produire. Troisième principe. Je ne sais pas si vous, dans la région, il y en a quand même, si vous avez déjà arraché un épi de maïs. Mmh. Un épi de maïs, mais au-dessus, c'est 2,50 m, mais en dessous, c'est 50 cm. Il n'a pas le temps de faire ses racines, on ne lui laisse que 4 mois. Autrement dit, quand on prend du recul, non seulement on n'utilise nos champs que 6 mois par an, mais on n'utilise que 50 cm du champ. 50 cm d'eau, d'azote, de carbone, de phosphate, enfin, ça ne va pas, il faut aller plus profond. Ben, plus profond, c'est l'arbre. C'est celui qui prend le temps de faire ses racines. Autrement dit, il faut remettre des arbres partout. Pas seulement en forêt comme dans les landes, mais dans tous les champs. Grosso modo, il faut mettre des rangées d'arbres tous les 20 mètres. Pourquoi 20 mètres? Parce que l'arbre, il fait ses racines à 5 mètres de profondeur, à 10 mètres. Donc on va suspendre les champs de maïs sur des racines d'arbres qui vont aller chercher les éléments nutritifs plus profonds. Alors, croyez pas que c'est simple. C'est une agriculture très compliquée. Hein. C'est Bac plus 10 maintenant, l'agriculture. Hein. C'est très, très compliqué de comprendre la vie des sols. Mais sur le principe, même un urbain peut comprendre ça.
Oui, bien sûr, ça se comprend. Ça s'étudie.
Et puis, dernière chose, au lieu de tout réduire à des produits chimiques, on va utiliser les forces de la nature. Tout le monde sait depuis l'école primaire que, par exemple, la petite bête à bon Dieu, là, c'est génial. Ça mange 100 pucerons par jour, une coccinelle. Mais... par exemple, près de chez moi à Angers, il y a un producteur de pommes. Bon, ben, il a installé 800 nids de mésanges. Carrément 800 nids. Hein. Et pourquoi les mésanges? Je fais une fixette. Ben oui, la mésange, c'est génial parce que la mésange fait ses petits à Angers en même temps que la carpocarpse. La carpocarpse, c'est le ver de la pomme. Alors, toutes les mères de famille ici présentes savent que les enfants, c'est pas tout de les faire. Il faut les nourrir. Ben, je peux vous dire que 800 mamans mésanges qui ont besoin de nourrir leurs enfants, il n'y a plus de carpocarps. Autrement dit, ce gars-là, il disait, mais moi, je croyais que j'élevais des pommes, mais non, j'ai changé de métier, je suis éleveur de mésanges. La mésange est plus forte que Monsanto. Voilà. C'est pour dire qu'on a encore énormément de choses à découvrir dans l'agriculture. Et donc, l'espoir, c'est de produire autant chez nous par des méthodes agroécologiques et de tripler en Afrique par des méthodes agroécologiques. Alors ça, c'est le premier défi. Comment faire pour produire 70% de plus alors qu'on ne va plus avoir de pétrole, plus avoir de chimie? Alors ensuite, la deuxième idée, c'est qu'il faut produire partout. Et donc, avoir confié l'agriculture mondiale aux commerçants, c'est une erreur. Il faut la redonner
aux producteurs,
aux agronomes. Et donc, il faut faire ce qu'on a fait dans toutes les régions du monde où on est bon en agriculture. Je vais vous dire, des régions du monde où on est bon en agriculture, il y en a grosso modo que trois. Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, Chine. Chine, c'est la Chine le plus grand producteur en tout. Hein. Bon. Alors, c'est curieux de comparer ces trois pays, parce que ce n'est pas du tout la même philosophie, on va dire. Hein. N'empêche qu'ils ont fait la même chose. Protéger les frontières, investir massivement dans l'agriculture pour augmenter la productivité. Et dans ces trois régions, on l'a fait. Alors, à coût de 2000 hectares par tête de pipe aux États-Unis, le plus que je peux avoir en France, c'est-à-dire 20, puis 50, puis 100, puis 150, et puis un hectare par tête de pipe en Chine. Et maintenant que nous, on est très bons, on dit non, arrêtez, faites pas ce que j'ai fait, faites ce que je dis. Ouvrez les frontières, ouvrez les ports, vous allez voir. Bah, évidemment que ça ne marche pas. Donc il faut faire exactement la même chose en Afrique. Il faut faire des regroupements en Afrique un peu équivalents à la communauté européenne, c'est-à-dire que regroupe 5 ou 10 pays avec des zones écologiques différentes pour que quand il y a une inondation à un endroit, on produise de l'autre. Et dans ces, il y en a quoi, 3-4 possibles. Dans ces univers-là, on protège les frontières, on soutient l'agriculture pour augmenter la productivité. Et on voit bien qu'on peut augmenter la productivité en Afrique, parce qu'en ce moment, tous les riches du monde achètent toutes les terres de l'Afrique. Bon. Si elles se mettent à acheter ces terres, cette nouvelle colonisation qui démarre, c'est bien qu'elles se disent, oh, attendez, sur ces terres, on peut produire beaucoup plus que ce truc-là. Ben oui, il y a beaucoup de pays africains où on produit moins que le jour de la décolonisation. On produit moins de nourriture aujourd'hui en Algérie qu'en 1960. On produit moins de nourriture aujourd'hui à Madagascar qu'en 1960. Donc évidemment qu'on peut produire beaucoup plus. Alors il va peut-être falloir une deuxième colonisation pour que ça redémarre. Donc en tous les cas, il faut réorganiser le commerce mondial pour pouvoir dire non seulement je dois produire, mais je dois produire partout. Troisième règle, alors là, il n'y a qu'à voir le Brésil. Monsieur Lula arrive il y a 12 ans, président du Brésil. Et il dit, je suis fier, je suis président du plus grand pays agricole du monde. Je suis le plus grand exportateur, etc. Et puis ses voisins lui disent, mais il y a un truc qui ne va pas. Il y a 80 millions de gens qui ont faim. Va chercher l'erreur. Dans le plus grand pays agricole du monde, il y a 80 millions de gens qui ont faim. Et donc, Monsieur Lula redécouvre cette chose évidente. Ce n'est pas parce qu'il y a de la nourriture que les mères de famille ont de l'argent pour l'acheter. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Ben oui. Alors, tous les Français disaient, ben, ils vont faire comme d'habitude en Amérique latine, c'est à gauche, il va nationaliser les grandes exploitations, il va les refiler aux petits paysans. Et lui, c'était pas son truc, la réforme agraire. Et lui, il dit, ben non, je vais prendre une autre idée, les allocations familiales. Ben, puisque le problème de la faim, c'est que les mères de famille n'ont pas d'argent, je vais donner de l'argent aux mères de famille. Donc je réinvente les allocations familiales, bolsa familiale, ils appellent ça. Et il dit, je donne $40 par enfant et par mois. Mais ce coup-là, je suis moderne. Je suis au 21e siècle. Je ne les donne pas en argent. Parce que s'il y a de la circulation d'argent dans ces pays où il y a de l'insécurité et de la corruption, ça va mal. Je donne une carte de crédit. Ou encore mieux, maintenant, puisque tout le monde a un téléphone, je donne une carte de téléphone. Il n'y a pas de circulation monétaire. Tous les mois, je donne $40. Je crédite $40. Et comme c'est électronique, je peux vérifier ce qu'on achète avec. Je dis, je verrouille cette carte de crédit. Avec cette carte de crédit, on ne peut acheter que de la nourriture. Pas de télé, pas d'alcool, les deux grands risques. Hein. Bien. Évidemment, je la donne à la mère de famille. Ne jamais donner une carte de crédit au père de famille. Voilà. Donc, je la donne à la mère de famille. Je crédite $40. Je peux acheter que de la nourriture avec. Alors maintenant, vous êtes l'épicier d'un village. Il y a 100 gamins dans le village. Vous savez compter.
Oui, 100 fois 40,
ça fait $4000. Ouais. C'est bon pour moi, mon coco. Ben, vous faites rentrer des faillots, faites rentrer du riz, faites rentrer du sucre, etc. De la farine de blé, normal. Mais vous êtes un petit commerçant, vous n'allez pas acheter votre riz en Thaïlande. Et comme en même temps, le gouvernement facilite et dit, ben, dans ce commerce, il faut qu'il y ait au moins 30% par les petits. Et ben voilà. Comment ça se fait que M. Lula, un des seuls dirigeants de la planète, à être parti avec une popularité pas possible au bout de 8 ans. Ben, les gens mangent alors qu'ils ne mangeaient pas. La mortalité infantile au Brésil en l'espace de 8 ans était divisée par 4. Mais même sa successrice, vous l'avez vu, il y a les élections il n'y a pas longtemps, elle manque de charme, on va dire, de charisme, etc. Bon, tout le monde a cru qu'elle n'était pas populaire, qu'elle allait sauter, parce que les classes moyennes à Sao Paulo, ils ne l'aiment pas. Mais par qui elle était élue? Les pauvres. Les pauvres ont dit, attendez, ça fait 12 ans qu'on mange, on aimerait bien que ça continue. Bon. Et donc, voilà, ils appellent ça fin zéro. Donc, allocation familiale, spécialisée,
nourriture. Ah, mais vous avez piqué le...
Voilà, j'ai piqué ce titre.
Vous avez piqué le titre.
Ben oui, mais c'est pas rien comme idée.
C'est vous.
Ouais. Mais ce n'est pas rien quand on y réfléchit que le dirigeant d'un très grand pays avoue à la face du monde, on est un très grand pays, on ne fait pas notre boulot. Le premier boulot d'un gouvernement, c'est de faire en sorte que les gens mangent. Bon, son ministre de l'Agriculture, il a changé de métier. Maintenant, il est directeur de la FAO. Ben, tiens, en partie, parce que M. Ban Ki-moon, les Nations Unies, c'est pas bête, ce truc-là. Tiens, si on transformait ça en un programme des Nations Unies, fin zéro. Et puis, ben, par exemple, le président mexicain, il dit, ben, allez, fais venir son copain, il dit, ben, hombre zéro. Alors maintenant, le président, la présidente indienne, vous savez, l'italienne qui dirigeait l'Inde, là, mais parce qu'elle avait fait un bon mariage.
Ah ben, oui, mais elle était compétente quand même.
Oui, non. Elle a pris ce truc-là, et ça, c'est quand même inouï, que la présidente de l'Inde dise, ou la première ministre, en l'occurrence, là, dise, attendez, on est le plus grand pays du monde, on rachète la sidérurgie en France, on envoie des satellites, on n'est pas foutu de nourrir. Mais quand on dit on n'est pas foutu de nourrir, en Inde, 48% des enfants de moins de 5 ans ont faim. C'est le même pourcentage d'enfants qui ont faim en Inde qu'au Burkina Faso. Pas glorieux. Et elle dit cette chose inouïe, eh ben, je vais distribuer des céréales à 800 millions de personnes. Je considère qu'il y a 800 millions de personnes qui ont besoin de céréales. Je vais donner 3 à 7 kilos de céréales à 800 millions de personnes tous les mois à quelques centimes de roupies. Quelques roupies. Bon, là-dessus, elle a dégagé, elle n'a pas été réélue. Mais l'autre a continué. Et vous savez ce qui s'est passé? On lui a fait un procès à l'OMC. Tu n'as pas le droit de distribuer de la nourriture pas chère. Distorsion du commerce mondial. Donc, procès à l'OMC, que quand même, elle vient de gagner. Donc, le nouveau vient de signer avec les États-Unis. Non, bon, allez, tu as le droit de nourrir tes pauvres. Alors, c'est un pays ultra corrompu, à mon avis. Il va y avoir de la perte en ligne. Hein. Mais il y a quand même cette idée. Des dirigeants de plus grands pays du monde disent « c'est pas normal qu'on ait faim chez nous ». Puisqu'aujourd'hui, on va parler de gâchis alimentaires, etc. On pourrait même dire ça chez nous, en France. Hein.
Bien sûr.
Pas chez nous, on n'a pas faim au sens africain.
Pour
Mais
on approche...
quand même, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à manger bien. Quoi. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin des associations pour faire ça? On ne peut pas organiser ça autrement. Enfin, ça, c'est, voilà, c'est une petite pointe.
C'est, on approche un peu de la conclusion, parce que ça oui. fait déjà une heure que je vous fais parler. Oui. Et je voulais donc, en conclusion, si on pouvait... On voit deux choses. C'est que sans les politiques, on ne peut rien. Il faut une volonté politique.
Oui,
pour...
sans les politiques, on ne peut rien. Mais en même temps, les politiques ne bougent que si la société civile et l'opinion publique bougent. Ouais. Or, ça coûte très cher, la faim. Ça coûte très cher, la faim. Regardez, si le sel est à feu et à sang, c'est d'abord parce qu'on a faim. D'abord. Alors, une fois qu'on a faim, on trouve toujours une excuse. Hein. Les cafés au lait contre les Noirs, les catholiques contre les musulmans, les chiites contre les sunnites, mon voisin contre moi-même, on trouve toujours. Mais le fond du problème, c'est que la population augmente au Sahel et qu'il n'y a plus rien à manger. Donc, ça nous coûte très cher, le monde à feu et à sang. Bon, et puis, attendez, il y a même des découvertes scientifiques sur les choses les plus simples, les plus basiques. Puisque maintenant, je suis dans une organisation qui fait de l'urgence. Bon, le premier truc qu'il faut faire quand les gens ont faim, quand il y a une catastrophe, c'est de sauver les gamins. Ce que nous, on a de la réserve. Je veux dire, c'est un peu croquignolesque à dire, mais
on a de la
si je ne mange pas pendant un mois, à la limite, ce sera bon pour ma santé, mais je ne meurs pas, moi. J'ai de quoi tenir facilement un mois. Bon, un gamin décharné, il a de quoi tenir une semaine. Donc, le premier truc, quand il y a une catastrophe, c'est nourrir les gamins. Bien. Et avant, renutrir un gamin, ça coûtait très cher parce qu'il fallait l'hospitaliser. Il fallait lui redonner du lait, etc. On hospitalisait la mère et l'enfant pendant un mois et demi. Et là, il y a eu deux découvertes extraordinaires qu'on n'a pas vues parce qu'on n'est pas dedans, mais que je vous dis quand même. Le premier, c'est qu'on peut redémarrer la lactation d'une femme quand elle a arrêté. Donc, dans un camp de réfugiés, une mère de famille arrive, elle n'a plus de lait, son enfant est dénutri. Ce n'est pas grave. Et ça, c'est extraordinaire. On croit tous que c'est la mère qui donne du lait à son enfant. Non, c'est l'enfant qui pompe le lait à la mère. Et donc, on remet l'enfant au sein, avec sur le téton un petit tuyau avec du lait, et hop, il tire. Il y a du lait qui arrive. Et avec ce système, 100% naturel, si j'ose dire, au bout d'une semaine, le lait revient dans le sein de la femme.
Ah oui, parce qu'il est stimulé.
Donc, on sait maintenant refaire produire du lait à une mère de famille. On n'a pas encore arrivé avec les hommes, mais avec les mères de famille, ça marche. Bon. Bon, et ça a l'air de rien, mais c'est génial. Parce que du coup, ben, on nourrit la mère, et la mère nourrit l'enfant. Ouais. Autre chose, c'est un Français qui a inventé ça en Normandie. Regardez ses enfants manger des tartines de Nutella le matin. Il dit, Nutella, c'est quand même génial. Hein. Bon. Eh ben, oui, mais le Nutella, non seulement c'est super nutritif, chez nous c'est très mauvais, ça fait grossir, mais c'est super nutritif en soi. Mais en plus, pas besoin de le mettre au frigidaire. Et donc, il a fait du Nutella bis, il appelle Plum Peanut, enfin des trucs à base de poudre de lait, plus arachide, plus, etc. Enfin, notamment ceux qui poussent dans ces pays-là. On les met dans des petits sachets fermés, des petites doses. Ça peut tenir 6 mois au soleil de l'Afrique. Il n'y a plus besoin de réfrigérer. Il n'y a plus besoin d'hospitaliser les gamins.
Oui, il suffit qu'il...
Il suffit d'une assistante sociale qui passe dans le village et qui donne les 7 doses pour chaque gamin. Alors le problème, c'est qu'on a vu qu'ensuite, au lieu de les donner aux gamins, ils les vendent. Donc, dans un premier temps, ils disent, je récupère les 7 doses, mais tu me donnes des emballages vides. En plus, c'est peut-être mieux. Et puis, à la fin, ils disent, non, à l'école, avant de partir, tu vas manger ta dose. Et c'est un truc incroyable, fait à partir de produits locaux, complètement stables, qui permet de regonfler un gamin. Là, je parle de gamin de 3 à 7 ans, quoi. De gamin en l'espace d'un mois. Donc, même ça, c'est possible. Autrement dit, il n'est pas impossible de se dire ce qu'on n'est pas arrivé à faire, notamment dans les 15 dernières années, puisque c'est l'échec total des objectifs du millénaire. Mais dans les 115 dernières années, puisqu'il y a autant de gens qui ont faim qu'en 1900, on peut peut-être le faire dans les 10 ou 20 ans qui viennent. C'est-à-dire diminuer fortement et durablement, jamais arriver à zéro, mais diminuer fortement et durablement les gens qui ont faim. Alors, c'est sûr que dans les camps de réfugiés, je suis maintenant spécialiste des camps de réfugiés
aussi.
Partout sur la planète, on a faim. Bon, effectivement. Mais, et je voudrais terminer là-dessus. Ouais. Contrairement à ce qu'on pense en France, il y a de moins en moins de guerres dans le monde. En France, on a l'impression d'être cerné parce que tension, l'Ukraine, le Moyen-Orient et le Sahel. Ouais, on a l'impression d'être cerné. Mais quand on y réfléchit, il n'y a plus une seule guerre en Asie. Il n'y a plus une seule guerre en Amérique latine. Et à part l'Ukraine, il n'y en a plus en Europe. Donc, la paix a fait d'immenses progrès. Il faut savoir qu'au XXe siècle, on estime que 5% des morts du siècle, c'est les guerres. Des guerres, des assassinats, tout. Actuellement, il n'y a que 0,8%. On meurt, entre guillemets, 6 fois moins en pourcentage
de la guerre
qu'avant. Mais cherchez l'erreur, il y a toujours autant de gamins qui meurent de faim. Autrement dit, la faim avant, si j'ose dire, c'était à égalité avec la guerre. Maintenant, c'est bien plus fort. On meurt bien plus de faim que de guerre. Et donc, c'est quand même intéressant que maintenant, l'opinion publique dise, bon, c'est pas terminé, la guerre, etc. Et nous, par exemple, il faut s'interroger sur le fait que qu'est-ce qu'on a fait pour que des jeunes de nos banlieues aillent couper des têtes devant les caméras dans d'autres pays ? Cet effet secte, comment on n'arrive pas à protéger nos jeunes contre les sectes ? Ok. Mais la faim, c'est maintenant le principal fléau sur Terre, puisque la guerre a radicalement diminué. Et est-ce que les opinions publiques vont être capables de dire à leur gouvernement, vous faites ce que vous voulez, mais le premier truc, c'est déjà sérieusement maintenant de traiter le problème numéro 1 du XXIe siècle. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours un gamin qui meurt de faim toutes les 10 secondes, alors qu'on peut faire en sorte que ça n'arrive pas ?